Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Travail à la Carte qui explore les différentes façons de travailler. Je suis Svetlana Baranov et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Hérol, qui est fraud manager chez Backmarket et qui a écrit un livre, Dania, les deux royaumes. Bienvenue Olivier.
Merci beaucoup. Bonjour Svetlana.
Et est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Oui, donc Olivier, je travaille chez Backmarket depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant en tant que fraud manager. Ou en très peu de mots, j'essaye de protéger Backmarket contre les fraudeurs. Je travaille dans le monde de la fraude et du paiement depuis maintenant 9 ans. J'ai eu la chance de travailler chez Etsy, chez PayPal, chez Deezer et donc aujourd'hui chez Backmarket.
Et qu'est-ce que t'apporte ton travail chez Backmarket?
Bah, beaucoup de choses. Déjà, j'ai la chance d'avoir les clés un petit peu de la fraude. Donc, on me donne la possibilité d'être assez autonome et on me donne les clés justement pour mettre en place tous les process pour protéger Backmarket contre la fraude. Pour pas employer de très grands mots, ça me rapporte du prestige parce que gérer un département aussi stratégique que ça avec beaucoup de confiance, bah c'est cool. Et puis l'entité elle-même, hein, une entreprise qui tend à poser une économie avec des produits verts, bah ça peut être que enthousiasmant.
Et qu'est-ce qui te plaît dans ton travail ?
Qu'est-ce qui me plaît ? Bah pareil, hein, je suis heureux de travailler dans une boîte qui veut contribuer à baisser l'empreinte carbone mondiale. Et en même temps, je suis heureux de me dire que je protège Backmarket contre les fraudeurs. Donc, en gros, je peux dire que je protège ceux qui veulent protéger la Terre, trivialement. Donc, j'aime ce côté aider, protéger. Et j'ai un peu, grâce à Backmarket et grâce à la fraude, cette double casquette. Protéger contre les fraudeurs, protéger contre la pollution.
C'est beau. Et donc, tu as écrit un livre. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ton livre ? C'est quoi le pitch, comme on dit ?
En gros, c'est l'histoire de trois princes qui vont voir le royaume de leur père se déchirer sous le coup des intrigues. Et ces trois frères, que sont Django et Pankri, et que rien ne semble pouvoir diviser, vont chacun prendre une direction irrémédiable pour l'histoire du royaume. En gros, c'est une saga familiale, un jeu de trône, un monde imaginaire inspiré de l'Empire romain qui me fascine beaucoup. Et voilà, c'est un roman qui se met en place doucement par une immersion dépaysante entre chaleur, jeu de cirque, sable, marbre blanc. Et je dirais que c'est une fresque à l'intensité croissante avec un jeu d'intrigue, un brin de stratégie militaire et un jeu de trône qui a un air de, en toute humilité, un air de Game of Thrones.
Ok, donc on voit très bien, je pense, l'univers de ton livre. Donc je rappelle que c'est Dania, les deux royaumes. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre ?
Alors, plusieurs choses. Plus jeune, je trouvais que je m'exprimais mal, je cherchais mes mots, je manquais de clarté dans mes propos. Et pourtant, quand j'écrivais, je trouvais que mes textes étaient assez bons. Donc, au fur et à mesure du temps, je continuais d'écrire pour combler un petit peu mes faiblesses à l'oral. Donc, j'écrivais un petit texte ici et là, puis je me suis lancé dans l'écriture des newsletters, un petit article, et puis enfin, ce roman, quoi. Et puis, je dirais aussi que j'ai lu pas mal de livres et souvent, comme tout le monde, hein, on est quelquefois frustré par le déroulement de l'histoire et l'intrigue ou la fin d'une histoire. Puis je me suis dit, écoute, moi, je vais écrire ma propre histoire. Comme ça, je serai ni frustré ni déçu de la fin de cette histoire parce que je l'écrirai moi-même et choisirai l'histoire moi-même. Donc voilà, un petit peu le cocktail un peu qui m'a poussé à écrire.
Et qu'est-ce que t'apporte cette activité d'écriture par rapport à ton travail que tu as déjà chez Backmarket ?
Bah un peu pareil, hein, ce qui m'apporte, enfin, ce que je peux pas exprimer, enfin toute la frustration que j'ai quand je peux pas exprimer ce que je veux, je le mets à l'écrit. Et à l'écrit, j'ai beaucoup plus de facilité et ça m'aide et ça me donne de la confiance. Et cette confiance-là, m'aide dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou dans la vie perso. Et puis ça me permet, pour parler de mon roman, ça me permet de me déconnecter. Donc, quand j'écris Dania, je quitte le monde pour celui de Dania. Je me déconnecte, vraiment quand j'écris. Et ça, c'est un luxe aujourd'hui pour moi.
Et comment tu t'es organisé pour avoir du temps pour écrire en plus de tes obligations personnelles et professionnelles ?
Je dors pas beaucoup. J'ai un sommeil. J'ai pas besoin de dormir beaucoup pour me reposer, donc ça m'aide beaucoup. J'écris beaucoup le soir, la nuit, et puis quand j'ai du temps le week-end, j'écris. C'est clairement, c'est même pas une histoire d'organisation, parce que j'écris pas forcément en semaine, en journée, mais vraiment la nuit, quand il se passe rien, en fait. Et quand il se passe rien, bah, on a du temps. Et voilà, tout simplement, quand les enfants dorment, quand madame se couche, et ben moi, j'écris.
Donc quelque part, si je comprends bien, l'écriture pour toi, c'est un moyen d'expression, voire de développement personnel, en fait.
Exactement, c'est exactement ça. Donc un moyen d'expression, parce que voilà, hein, ça s'entend, hein, quand je parle, je cherche mes mots, je suis pas forcément un éloquent plus, mais à l'écrit, je m'exprime comme je veux, avec les mots que je veux, avec la qualité que je souhaite retranscrire. Donc voilà, l'écriture, ça me sert à ça, et puis la déconnexion aussi, surtout.
Et quand tu t'es lancé, est-ce que tu en as parlé à ton employeur ou tu t'es juste dit « je fais ça pour le plaisir, on verra bien » ?
Non, non, c'était pour le plaisir. De toute façon, quand je m'étais lancé, je n'avais pas du tout l'ambition de sortir de livres. Hein. C'était « je tente, je vois ce que ça donne » et puis si je prends une histoire incroyable, bah, je me ferai aider par un prête-plume. Et puis voilà, et puis je me suis rendu compte que c'était cohérent. Et puis au fur et à mesure du temps, je me dis qu'il y a ce qu'il faut pour sortir un livre, mais j'en ai pas parlé à mon employeur, j'en ai parlé après coup. Donc là aujourd'hui, on le sait, mon équipe le sait, ma manager, enfin mes managers le savent aussi, et on m'encourage beaucoup, donc ça fait plaisir. Mais à la base, non, donc j'en ai parlé à personne.
Et au moment de la publication, tu t'es posé la question de le publier sous un pseudonyme, par exemple, ou c'était clair pour toi où tu allais?
Non, je me suis posé la question quand même. Je me lance dans une aventure. Est-ce que j'ai vraiment envie que tout le monde le sache, dans le monde professionnel en tout cas? Est-ce que j'ai envie qu'on sache que trop de managers de back market écrit aussi des livres fantasy? Mais je me suis posé la question effectivement d'anonymiser tout ça, mais je me suis dit non. Écoute, tu fais un taf, tu l'assumes. Et donc, j'ai décidé de garder mon nom.
Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est dur pour toi de porter quelque part cette double casquette de « j'ai un emploi et je suis auteur de romans alors, je ne sais pas si on dit fantastique, je pense que c'est ça, d'univers fantastique en tout cas.
Ouais, c'est ça. C'est pas facile. Hein. Mes collègues me disent « tu devrais plus communiquer au sein de Back Market déjà ». Mais c'est dur. Peut-être qu'on se met une pression pour rien, mais en tout cas, c'est pas facile de changer de casquette et de se dire, voilà, je vous protège contre la fraude, mais j'écris aussi des livres avec des elfes et des dragons. Bon, il n'y a pas d'elfes et de dragons dans mon roman, mais c'est dur, effectivement, de communiquer sur ça, parce qu'on ne sait pas si le livre est bon. On ne sait pas si les gens vont apprécier, on ne sait pas si on va être jugé, mais en tout cas, j'ai fait le choix de ne pas me cacher, et puis on va lancer la communication aussi en interne, petit à petit, mais ce n'est pas facile.
Ouais, j'ai vu qu'il avait quand même 5 étoiles ton livre, donc il doit être pas mal.
Bah, j'espère. Moi, je pense que... Bon, il y a des défauts, parce que je l'ai relu plusieurs fois, enfin, je l'ai relu même une fois après l'édition, et je revois des coquilles, et je vois des choses que j'aurais pu faire autrement. Mais globalement, je pense qu'il va plaire. D'ailleurs, j'ai déjà quelques critiques en ligne de chroniqueurs. C'est plutôt positif. J'appréhende les critiques négatives parce qu'encore une fois, j'y vais un petit peu à l'aveuglette. Mais j'ai eu des critiques de certains amis, de quelques bêta lecteurs, de ma maison d'édition. Mais c'est très peu par rapport aux milliers de lecteurs. Dans le monde de la lecture justement. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire des critiques négatives? Ça voudrait dire que c'est pas vraiment pour moi l'écriture. Est-ce que je suis aussi bon que je le pense? Est-ce que je devrais arrêter? Donc c'est toutes ces questions qui me viendront quand j'aurai ces critiques.
Et tu as eu du mal à trouver une maison d'édition?
Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, on a beaucoup de refus, mais on a quand même quelques réponses. Mais c'était mon cas.
Est-ce que tu aurais envie de devenir auteur à plein temps?
Ah oui, c'est mon rêve suprême. Mais je pense qu'il y a du travail et il faut du temps. Il faut du temps et je suis bien parti pour rester encore quelques années dans le monde de la fraude. Mais à terme, ouais, ce serait un rêve, effectivement.
Du coup, forcément, un deuxième livre à prévoir. En plus, tu as parlé de saga.
Ouais, deuxième livre, à coup sûr. À coup sûr et avec un peu plus de maturité, plus d'expérience, des erreurs que je ne ferai pas. Plus patient et mieux, j'espère, que celui-ci.
Justement, quelles erreurs, quels conseils tu donnerais pour écrire un livre ?
Ah, faut être patient. Faut le lire au moins 1000 fois son livre avant de chercher un éditeur. Le faire lire, demander à des bêta lecteurs de le lire, puis le corriger, le recorriger, le retravailler. Le lire 10 fois, 20 fois, 50 fois, ça suffit pas. Et j'abuse pas. Je l'ai lu aujourd'hui peut-être 15 fois. Et à chaque fois que je le lis, il y a des trucs qui me gênent. Et je pense qu'il faut le lire sincèrement. 1000 fois, j'abuse presque. Mais faut le lire, faut le relire son texte, faut le connaître par cœur.
Et est-ce que tu penses que ce type, quelque part, de travail hybride, donc d'avoir un poste en CDI et peut-être une activité passion à côté, c'est un bon compromis et ce serait peut-être un modèle qui va se développer à l'avenir ?
Oui, après je suis pas sûr que ça n'existe pas déjà. Moi, je connais plein de collègues qui travaillent mais qui font de la musique à côté, qui font du sport à côté, qui font du dessin à côté, qui font plein de trucs à côté, qui ont même une activité professionnelle à côté. Mais je pense que la clé, c'est de pouvoir en parler sans tabou. Donc, c'est pas parce qu'on fait quelque chose à côté qu'on n'est pas performant dans son travail. Au contraire, je pense que c'est très complémentaire. Moi, ce que je fais, ce que m'apporte l'écriture, bah, je peux l'utiliser au travail. Et moi-même, hein, j'en ai pas forcément parlé. J'ai même des difficultés à en parler au travail de ce projet transverse, de ce travail transverse. Mais au final, je pense que c'est très positif pour le travail. Faut que ça se démocratise dans le sens où faut pas qu'on ait honte d'en parler.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est bon pour tout le monde, pour l'employé comme pour l'employeur. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage qui est très inspirant et j'espère que ça va peut-être donner des envies à d'autres personnes. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour s'épanouir au travail ?
Il faut rester soi-même. Si on commence à mettre un masque au travail pour X ou Y raison, eh ben on se fixe des limites. Des limites dans le bonheur. Et ça, faut pas. Faut venir au travail comme on est à la maison, comme on est avec ses amis. Faut pas avoir peur d'être soi-même au travail. Au contraire, on est apprécié pour ce qu'on est, malgré nos défauts. Au final, on aime toujours quelqu'un malgré ses défauts et pas pour ses qualités. Donc, faut garder ça en tête. C'est comme ça qu'on s'épanouit au travail, si on est en soi-même. Ne pas avoir honte de ses projets perso. Ne pas avoir honte de ce qu'on est. Et puis, tout ira pour le mieux.
Ben, merci beaucoup pour cette belle conclusion, Olivier. Et je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver le livre d'Olivier, Dania, Les Deux Royaumes. Donc si vous voulez le lire, le découvrir et puis ben, donner un coup de main dans sa carrière d'auteur, n'hésitez pas à vous le procurer.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. À le liker 5 étoiles et à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt et rendez-vous dans le prochain épisode.